Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie.
Aujourd'hui, Iran, la reconfiguration régionale vue de Téhéran.
Voilà, avec notre invité Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM. Bonjour, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors pour l'Iran, évidemment, la date clé récente, c'est l'accord sur le programme nucléaire militaire de juillet 2015, qui a marqué l'ouverture d'une nouvelle période, encadrement des activités nucléaires contre levée progressive mais non totale des sanctions. Sanctions elles-mêmes diverses de l'ONU, des États-Unis, de l'Union Européenne. On en avait parlé avec Feridoun Kavand. Récemment, on peut s'y reporter, franceculture.fr. Et puis, il en est résulté un desserrement très significatif de l'économie iranienne, entre autres les exportations d'hydrocarbures et les commandes de l'aéronautique civile au profit de Boeing et d'Airbus. Et puis, sur le plan politique, l'évolution a été beaucoup plus heurtée, notamment sur le plan régional et sur le plan international. Alors, c'est vrai, certes, en interne, la réélection de Rouhani, du président Rouhani, qui a bien été réélu et qui a été bien réélu en mai dernier. Les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite avaient été rompues en janvier 2016 à l'initiative de Riyad. Il y a eu l'élection de Trump, évidemment, du Donald Trump aux États-Unis, et puis lequel avait violemment dénoncé l'accord sur le nucléaire de 2015, comme je le cite, le plus mauvais accord jamais négocié. Enfin, bon, tout ça bouge quand même en quelques années. Alors, sur le plan d'abord interne, on peut dire deux ou trois choses.
Oui, de ce que nous disent les Iraniens que nous fréquentons et avec qui nous parlons, les choses changent positivement, c'est-à-dire que l'élection très large de Rouhani dès le premier tour a redonné le moral, on va dire, aux réformistes et tout simplement à l'ensemble de la société. Et depuis sa réélection, il y a un certain nombre de symboles qui sont en train d'évoluer. On a l'impression que la population iranienne, finalement, avance doucement ses pions, sûrement, lentement mais sûrement, par exemple faisant tomber un certain nombre de tabous. Par exemple, on a de plus en plus de femmes qui rentrent dans les stades, dans les salles de sport, ce qui était strictement interdit auparavant, et personne ne les en déloge. De plus en plus de femmes conduisent à l'intérieur de leur voiture sans voile, sans se faire réprimander par la police, enfin la police religieuse. Donc les choses avancent doucement mais sûrement. On a l'impression que ce gouvernement Rouhani sait qu'il est assis sur un volcan, qu'il est écartelé finalement entre le besoin d'évolution de la société et la peur maladive du régime de voir les choses s'ouvrir trop rapidement, et qu'il essaye de surfer finalement sur la vague. Il essaye de le faire avec équilibre. Donc ça, c'est sur le plan intérieur.
Alors sur le plan régional, c'est très contrasté. Alors on peut peut-être commencer par la Syrie.
Oui, je crois que ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours avec les deux attentats de Téhéran qui ont frappé donc au cœur le régime sont paradoxalement plutôt une opportunité pour Rouhani, c'est-à-dire qu'ils montrent clairement aux gardiens de la révolution et aux durs du régime qui sont de fait normalement en charge de la sécurité de la capitale iranienne, ben que entre guillemets vouloir se battre en Irak et en Syrie pour protéger l'Iran. J'allais dire à l'extérieur, c'est bien, mais ça n'empêche pas les attentats au cœur de la capitale.
Comme vous me le
donc
disiez
ça fragilise les passes d'Aran.
Voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre Razou, donc en préparant l'émission, ce sont deux forts symboles qui ont été visés.
Oui, c'était le Parlement, donc le Parlement de Téhéran, et le tombeau de l'ayatollah Khomeini, qui sont les deux cœurs et les deux symboles de la révolution.
Quels sont les rapports dans le conflit, la guerre civile syrienne, entre Téhéran et Moscou et les Russes, puisque ce sont des alliés de fait?
Oui, alors sur le plan, on va dire, géopolitique, géostratégique, en Irak et en Syrie, les Russes et les Iraniens sont manifestement alliés, parce qu'ils ont les mêmes objectifs, faire tomber Daesh, affaiblir, on va dire, le camp sunnite radical et les milices, et les djihadistes de tout poil. Mais sur le plan énergétique, ils sont rivaux, parce que les Russes, qui veulent rester dans un tête-à-tête avec les Européens, font tout pour empêcher les exportateurs de gaz et de pétrole du Moyen-Orient, et dont l'Iran notamment, d'accéder à la Méditerranée pour pouvoir exporter leur gaz vers l'Europe du Sud et donc finalement sortir de ce tête-à-tête. Donc le paradoxe, c'est que Moscou est à la fois un allié stratégique pour l'Iran en Irak et en Syrie, et en même temps un rival économique très, enfin, et un compétiteur évident sur le plan de l'exportation énergétique.
Alors les relations avec les pays arabes, on le sait, se sont beaucoup détériorées, on l'a dit tout à l'heure, notamment sur le plan diplomatique, avec la rupture des relations avec Riyad, mais à l'initiative de Riyad, il y a quelque temps, c'était, je crois, c'était en janvier 2016. Alors là aussi, est-ce qu'on peut dire toujours que l'antagonisme clé, c'est celui entre Téhéran et Riyad ?
Oui, toujours. Et de ce côté-là, ce qui vient de se passer ces derniers jours dans le Golfe, avec la marginalisation du Qatar par les autres membres du Conseil de coopération du Golfe, si vous me passez l'expression, c'est pain béni pour le régime iranien, puisque finalement, les Iraniens disent au reste de leurs voisins « Regardez ce qui se passe sur la rive sud du Golfe arabo-persique ». Et c'est la démonstration, donc, en fait, de tous les problèmes internes au monde arabe et internes aux monarchies du Golfe. Donc, évidemment, ça ne fait que renforcer la position de l'Iran, mais aussi de la Turquie, qui avance ses pions au Qatar. Ils mettent les contradictions à la fois américaines et des pays et des monarchies du Golfe en évidence.
D'ailleurs, les Américains ne sont pas très clairs au sein des institutions sur la question du Qatar. Non, comme d'habitude, ils ont dit tout et leur contraire.
Oui, puisque finalement Trump arrive et convainc le roi Salman d'Arabie Saoudite donc de serrer les boulons et donc d'avoir un discours très ferme et n'est pas opposé à la marginalisation du Qatar. Et une semaine plus tard, le général Mattis, chef du Pentagone, arrive, fait sa propre diplomatie et dit clairement à tout le monde on ne touche pas au Qatar. C'est-à-dire que le Qatar est un allié américain, crucial pour la défense des intérêts américains, et donc il va à l'encontre même du discours de son président.
Alors, il y a évidemment un autre aspect, c'est vu de Téhéran, évidemment, la façon dont l'Arabie Saoudite s'enlise militairement dans la guerre civile du Yémen. Ça remonte quoi, il y a 2 ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons?
Oui, en fait, au printemps 2015, donc à peu près il y a 2 ans.
Alors, c'est là aussi, cet affaiblissement de l'Arabie Saoudite sur le plan militaire et même sur le plan diplomatique dans cette affaire du Yémen, parce que l'Arabie Saoudite pouvait ne pas y aller, elle y est allée, et comme d'habitude, elle pensait le faire rapidement et ça n'avance pas.
Tout à fait, et c'est ce qui convainc notamment l'Iran, que désormais le temps joue pour lui et contre les Saoudiens, qui justement s'enlisent non seulement au Yémen, mais sur l'ensemble du front régional, en Syrie, en Irak, qui sont en train d'être, on va dire, marginalisés au Liban. Donc clairement, le jeu aujourd'hui des Iraniens, tel qu'on peut le comprendre, c'est ne pas faire d'erreur, finalement laisser les monarchies du Golfe s'enferrer dans leurs contradictions, laisser les Américains, eux aussi, jouer de leurs contradictions et donc s'affaiblir, et attendre paisiblement que tout cela évolue pour voir ce qu'il en sortira dans 6 mois, 1 an, 2 ans.
Ça laisse un espace, une marge de manœuvre au fond pour Téhéran, d'autant plus que certains pays, on va dire, de la péninsule arabique ont des liens souvent poussés avec Israël. Donc tout ça, vu de Téhéran, c'est un spectacle.
Oui, et peut-être que justement ça laisse de la place aux Européens pour avancer leur pion, pas forcément économique, mais politique et diplomatique, pour essayer de convaincre les pays de la région, l'Iran bien sûr en tête, mais aussi les monarchies du Golfe et les puissances régionales, de la nécessité cette fois-ci de s'asseoir autour de la table et d'essayer d'avancer sur les dossiers sécuritaires de la région et d'avoir une autre approche des dossiers régionaux.
Comme on l'a dit ici même depuis combien de temps, Pierre Azou, de toute façon la solution n'est pas militaire dans la guerre civile syrienne, elle sera politique et il faudra que tout le monde, sauf évidemment les terroristes, les mouvements terroristes, soient à la table, et on s'évertue à le dire. D'ailleurs, j'ai vu que le président français a dit des choses intéressantes.
Exactement, donc le président Macron, dans une grande entrevue à plusieurs journaux européens, donc a clairement fait un U-turn et un 180 degrés sur la position française et les positions européennes pour dire maintenant il faut faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Et président Macron, enfin évidemment, je ne fais que citer ses propos, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, y compris les Russes, pour éliminer les véritables adversaires de la France, qui sont les terroristes et les djihadistes.
Merci beaucoup Pierre Azou, Institut de recherche stratégique de l'École militaire, et on se retrouve lundi matin.
Merci à vous.
Merci. Franceculture.fr, je l'ai dit, ne sais plus.
Alors non.
C'est le mot capital.
Pour télécharger et réécouter les enjeux internationaux, merci à vous Thierry Garcin et à Pierre Azou qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en studio.